Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et on continue les débats d'Europe Soir avec Judith Vintraube, journaliste au Figaro Magazine, Christian Proutot, fondateur du JSGN, Prisca Thévenot, porte-parole LREM, et Aurélien Taché, député du Val d'Oise. Pour commencer cette saison des débats d'Europe Soir, c'était fin août, j'avais, il y a trois semaines, souvenez-vous, construit un débat sur le thème un peu provocateur de « Dans huit mois, la présidentielle, so what ?» Et alors, comprenez, peu de monde y accorde de l'importance. Trois semaines plus tard, mais aussi parce qu'on parle moins de la crise du Covid qui a enfumé tous nos écrans radars, on commence petit à petit à s'y intéresser. Ça veut dire que le cas Zemmour fait parler de lui, les divergences, les tâtonnements à droite aussi, à gauche, c'est l'incertitude un peu. Mais alors, qu'en est-il du camp Macron? Trop tôt pour un président en exercice de se déclarer, c'est vrai, c'est normal. Il n'empêche, ça s'active dans les équipes du président, à commencer par son plus fidèle soldat. Écoutez, Jean Castex, c'était mercredi dernier à la sortie d'un séminaire gouvernemental après le Conseil des ministres.
Le gouvernement est pleinement et totalement à la tâche. 200 jours nous séparent des prochaines échéances démocratiques, rendez-vous évidemment essentiel pour notre pays. 200 jours pour agir jusqu'au bout, car c'est non seulement l'intérêt du pays, mais c'est évidemment la conception que nous nous faisons de notre responsabilité. Je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie. Et je vous ai épargné le sonore avec les chiffres, mais il est éloquent. D'autres déclarations de ce genre devraient suivre. Est-ce qu'on peut dire que la machine est en route, la machine est en marche, Judith ?
Je ne sais pas, la machine a déjà eu un raté, puisque Emmanuel Macron a dit il n'y a pas longtemps, mais les retraites, ça va repartir.
Vous appelez ça un raté ?
C'est fini là. Le même Jean Castex a dit que ce n'était pas le moment. Donc, je ne sais pas. On dirait que le moteur, que quelqu'un cherche à relancer le moteur et que d'abord,
en tout cas,
la crise sanitaire.
Ce qu'on peut dire, c'est que la campagne, même s'il n'est pas en campagne,
Complètement commencée.
Elle a commencé. Enfin,
je suis d'accord avec vous.
Mais
on sent que Emmanuel Macron, qui, rappelez-vous, avait appelé son livre au programme Révolution, se dit que le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur de la promesse. Alors certes, il y a eu la crise du Covid, ou de la Covid.
Qui nous a un petit peu pris de temps
et qui continue de nous en prendre un peu. Mais là, où est la révolution ?
90% des promesses de 2017, des promesses du programme de 2017, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Et sur plusieurs domaines, et c'est la raison pour laquelle, et je me permets aujourd'hui d'envoyer aussi un petit coucou à de nombreux militants de la majorité présidentielle qui sont sur le terrain, parce qu'effectivement, pendant 18 mois, nous n'avons pas pu y aller, pour aller rendre compte de ce bilan. Parce que ce bilan, il est de différents ordres. Il est pour tous les Français, effectivement, sur les sujets du pouvoir d'achat, sur le sujet de la fiscalité, sur le sujet, effectivement, aussi de l'éducation.
Aurélien Taché lève les yeux aussi.
De l'égalité femmes-hommes, mais il est également sur le sujet des grands bouleversements que nous devons vivre et que nous vivons, qui sont les crises climatiques, sanitaires. Donc, moi, je veux bien qu'on dise « j'ai pas l'impression que ça aille changer », et en fait, si ça a changé, dans les faits, combien aujourd'hui de Français qui payaient la taxe d'habitation
en 2016 ? Il fait la moue maintenant.
On verra ce que les Français en disent.
Très bien. Écoutez, Aurélien Taché, ce qu'on verra aussi, ce qu'on se souvient aussi, c'est que en 2016, visiblement en 2017, vous étiez en photo à côté d'Emmanuel Macron et que visiblement, vous avez plus ces derniers mois, et on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, regardez ce que vous pouviez faire à part, regardez ce qui avait été réellement réalisé. Reprenez le programme point par point et nous y sommes.
Alors, désolé, mais pour beaucoup de gens qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2017, le compte n'y est absolument pas du tout. Beaucoup de gens l'avaient rejoint effectivement sur cette promesse de révolution démocratique notamment. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les renoncements dans ce domaine-là, tout ce qui avait été prévu pour finalement ouvrir un peu le jeu démocratique.
Ça, vous pouvez en parler des renoncements.
Oui, le scrutin à la proportionnelle, les innovations démocratiques, par exemple la Convention citoyenne pour le climat, c'est très bien de la faire, mais c'est bien aussi d'écouter ce qu'elle a à dire, sinon ça ne sert à rien. Mais surtout, sur un autre grand thème qui, moi, m'avait fait le rejoindre en particulier, qui était la question de l'émancipation. C'était ça la promesse d'Emmanuel Macron, c'était on va aller vers un progressisme, l'émancipation, et bien plus d'égalité des chances.
C'est-à-dire que le milieu social ne conditionne pas la réussite.
Le dédoublement des classes qui a concerné finalement assez peu de territoires et qui dont aujourd'hui on se rend compte malheureusement que la plupart des fonds qui sont les crédits de l'éducation nationale ont surtout servi à rouvrir des classes bilingues grec-latin qui profitent aux enfants des milieux favorisés. voilà le bilan de la politique éducative de Jean-Luc Mélenchon. Ça vient de paraître dans le monde.
Bref, parlez aux professeurs de votre circo et vous verrez que ce n'est pas vrai.
Je leur parle et je vous assure que pour les ambitions qu'on avait en matière d'émancipation, alors le droit au chômage pour les indépendants, le démissionnaire, j'étais rapporteur de ce projet de loi. Qu'est-ce que sont devenues ces promesses? Rien du tout. Tout un tas de sujets de ce type-là.
Donc vous avez abandonné le sujet de l'éducation. C'était que le sujet de l'éducation. Il y a eu tellement de choses.
Je vous ai parlé de l'émancipation. Donc l'émancipation, c'est une politique éducative, effectivement, où on considère que le milieu social peut effectivement influer sur la réussite scolaire ou non. Il n'y a quasiment eu aucun changement notable en matière éducative de ce point de vue-là. C'est aussi en matière sociale, mettre en place un certain nombre de droits
nouveaux. Qu'est-ce qui a été fait? Attendez, stop. Ouais. Voilà. Sur l'émancipation, qu'est-ce qui a été fait, Prisca Thévenot?
Il y a eu effectivement le dédoublement des classes, vous en pensez ce que vous voudrez, mais fondamentalement...
C'est la seule mesure que vous
attendez, laissez-moi finir et vous allez voir.
Soyez
le
galant,
dédoublement
moi.
Des classes, vraiment, on va être très clair, je l'ai vu dès la mise en place et je vais fréquemment voir des écoles sur ce sujet, notamment à Clichy-sous-Bois. Et globalement, mais vraiment, aussi bien les parents, les enseignants et les enfants sont vraiment enthousiastes sur ce sujet. Il y a eu le sujet du dispositif devoir fait, parce qu'effectivement, il y a des sujets aussi de suivre les élèves. Mais vous pouvez lever les yeux au ciel, ça ne vous concerne peut-être pas, mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour de nombreuses... Parlez aux familles. C'est extrêmement important pour de nombreuses familles d'avoir ce sujet. Le sujet des petits déjeuners gratuits à l'école. Il y a aussi le sujet du comité interministériel des villes qui a été mis en place pour justement le sujet de l'éducation, mais le sujet également du sport, le sujet de l'accès à la culture et le sujet du bâtiment. Donc je veux bien que vous veniez dire aujourd'hui que rien n'a été fait, mais ça n'a fait avancer le débat sur rien parce que vous considérez que vous n'êtes que dans une posture démagogique et vous préparez votre élection l'année prochaine.
En fait, pour moi, vous illustrez le fond du problème. La Macronie, c'est voilà, on parle d'une série de mesures.
Attendez, la Macronie, c'est quoi?
C'est une série de mesurettes comme ça, il n'y a pas de projet d'ensemble, enfin, il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de changement majeur qui fait que, par exemple, demain, dans les écoles du centre de Paris, ben, on aura, enfin, plutôt dans les écoles des quartiers populaires où on est élu, on aura autant de moyens que celles du centre de Paris. Il n'y a pas eu de changement de paradigme qui correspond à une vision de la société qui était celle qu'Emmanuel Macron promettait en 2016-2017. On parlait des petits déjeuners, de 2-3 mesures comme ça. C'est le fond du problème. C'est-à-dire que quand on est véritablement engagé en politique, d'après moi, on doit avoir un projet de société d'ensemble, on doit essayer de s'attaquer aux changements structurels qui sont nécessaires dans une démocratie en matière d'écologie, en matière d'éducation, en matière d'émancipation, ça n'a pas été fait. Et moi, effectivement,
j'ai été
Emmanuel Macron en 2017, je l'ai quitté. Aujourd'hui, j'invite plutôt les gens à regarder ce qui se passe du côté de la primaire écologiste. Elle est ouverte dès les jours, allez-y voter et on essaiera de faire autre chose que un quinquennat encore perdu.
Je suis désolée, mais je vais juste dire ça. Vous êtes à quel point c'est démagogique ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi? Parce que vous avez quitté Emmanuel Macron quand? Hier, aujourd'hui, demain? Non, vous l'avez connu il y a bien des mois et des années. Donc vous n'avez même pas laissé le temps au programme de se mettre en place, aux lois d'être votées. Donc c'est de la pure démagogie, Aurélien Taché. Vous le savez très bien. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous empêcher de commencer à préparer votre élection et à parler pour votre
prochaine. Le seul bilan, c'est en matière économique.
On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Question Poutou.
Moi, je vais être pas tout à fait dans le coup, parce que je suis plutôt quelqu'un qui a été haut fonctionnaire pendant des années, et j'ai vu défiler les présidents de la République, les promesses, etc.
Donc j'essaie bis repetita.
Bah, un petit peu, et puis c'est dommage de le dire, c'est presque le jeu, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ah bon?
Il y en a qui fonctionnent par défaut en disant vous avez pas fait ça.
Là, vous allez vider les espoirs de beaucoup de monde, j'ai l'impression.
Oui, bah attendez, si on juge par le nombre de gens qui vont voter, il y a quand même un problème. C'est ça.
Le score de l'abstention régional était sidérant.
Je pense pas que ce soit le président de la République qui en soit responsable, mais il y a quelque chose au niveau qui passe plus, au niveau des citoyens par rapport à la politique, c'est tout.
C'est intéressant ça, Judith.
Oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a lui-même avoué, il a échoué à réconcilier les Français et leurs gouvernants. Il l'a dit, c'était quand même...
Discours de Marseille.
Oui, c'était quand même son grand projet. Quand on regarde le bilan, il ressort quoi? Alors effectivement, cette histoire de dédoublement des classes, mais... Mais fondamentalement, l'école ne corrige pas mieux les inégalités sociales qu'elle ne le faisait avant que Jean-Michel Blanquer, que par ailleurs on peut apprécier, arrive à l'éducation nationale. En termes d'assouplissement et de libération du travail, il a fait la réforme du code du travail que Aurélien Taché doit trouver abominable et dont moi je pense que c'est un petit pas dans la bonne direction. La réforme de la SNCF, bon, et puis quand on a dit ça, on a à peu près tout dit.
Les Gilets jaunes et tout le reste, eux, en revanche, ont bien été au rendez-vous du quinquennat, parce qu'effectivement, même sur les questions de pouvoir d'achat et sur un certain nombre de questions qui étaient celles qui étaient liées à la volonté de réconcilier les Français avec la politique, je suis d'accord, et d'ailleurs, il avait fait un aveu au moins qui était réel. Ce jour-là, le président de la République, eux, ont bien été là pendant le quinquennat. Alors oui, il y a eu la Covid, mais je suis désolé, Prisca Thévenot, j'ai été pendant 3 ans dans cette majorité et fait des propositions sur tout un tas de sujets.
Qu'est-ce
et
qui vous a fait renoncer?
C'est les renoncements les uns après les autres qui finalement.
Qu'est-ce qui vous a fait renoncer?
Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron, par exemple, s'était complètement transformé sur la question des libertés, sur la question de l'immigration. Quand en 2017, tout le monde disait Macron, c'est un libéral, mais c'est au moins un libéral complet. Vous savez, c'est un libéral en matière économique, mais c'est aussi un libéral en matière politique, un peu à l'américaine. C'est quelqu'un qui a une vision de la société vraiment
démocrate. Quoi.
Voilà, donc les réfugiés sont des héros, on va les accueillir. Les libertés publiques sont précieuses, il faut les chérir. Sur tout ça, des transformations absolues. Moi, le rapport que j'ai fait sur l'intégration des réfugiés, bon, il y a eu quelques mesures de reprise, mais ça n'était rien par rapport à tout le reste de la loi Collomb qui est venue effectivement restreindre le droit d'asile de manière considérable. Après, la loi Casseur est la réponse aux manifestations et aux gilets jaunes. Une répression vraiment très forte. Une loi qui vient interdire en prévention à des gens de manifester, donc complètement contre les libertés publiques. Moi, c'est la première fois où je vote contre un texte de la majorité. Et on va jusqu'à la loi séparatisme et tout un tas d'autres sujets. Donc au final, sur la question de l'écologie, il n'y a rien. Sur la question de l'éducation et du travail, très peu de choses. Sur la question des libertés, un changement complet. Ce qui restera, c'est un bilan économique, effectivement, où là, il y a eu les réformes tout de suite. Suppression de l'ISF, suppression flat tax, etc. C'est ce qui restera des
mêmes. La loi séparatisme, vous ne la voyez pas venir à l'époque ?
Non, pas du tout. C'est impossible de penser qu'Emmanuel Macron, de 2017, va faire une loi sur le séparatisme. C'est impossible. Il est sur une laïcité ouverte, il est sur un projet de liberté qui correspond effectivement à mes convictions à moi.
Le Macron 2017 nous explique qu'en fait, nous faisons le terreau du terrorisme. C'est nos sociétés qui sont coupables.
Il y a deux choses. La loi séparatisme, son origine, c'est le discours des Mureaux. Je crois qu'on oublie ce discours des Mureaux qui est extrêmement important.
Oui, qui marche un changement.
Et voilà, qui marque un changement. Et le discours des Mureaux, c'est deux volets. C'est d'une, effectivement, une fermeté absolue vis-à-vis de ceux qui s'en prennent à notre République. Et donc, la conclusion de cette partie-là, c'est la loi séparatiste. Mais aussi, il y a toute la partie.
C'est une philosophie politique.
Oui, effectivement,
faut l'assumer.
On est d'accord pour enfreindre les libertés de ceux qui s'en prennent à notre République. Franchement, oui. Et le sujet, le deuxième volet, c'est effectivement aller remettre la République là où il y a des trous dans la raquette. Et c'est pas que de la fermeté, c'est aussi remettre l'éducation, remettre le service public, les maisons France Service. Peut-être que c'est rien,
mais
ça vous semble rien.
Sur la table, elle vous a rien fait.
les maisons France Service, ça ne vous dit peut-être rien.
Effectivement, j'en ai une qui a ouvert à Cergy, mais c'est pas ça qui va changer grand chose.
Mais en fait, vous êtes tellement dans une posture que vous n'arrivez même pas à voir ce qui a été fait. Vous ne voyez. On peut être critique, mais de là être démagogique, ça ne fait rien avancer.
On marque une pause et on s'engueule juste après. Non, on continue le débat juste après ça.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Alors je le disais en rigolant qu'on continuait de s'engueuler dans les débats d'Europe Soir, mais ça arrive, et c'est le jeu, on est là avec Christian Proutot, fondateur du GIGN, avec ma consort du Figaro Magazine, Judith Vintraube, et Aurélien Taché et Prisca Thévenot, évidemment. Il y en a un qui a quitté Macron et l'autre qui est resté avec lui. Donc évidemment, on n'est pas trop d'accord sur le bilan. Alors ce bilan... qu'est-ce que vous vouliez dire,
juste, Judith ? Là, parce qu'on parlait d'éducation avant la coupure, il y a un autre domaine dans lequel l'attentisme ou la boulie macronienne me
la
paraît...
Boulie.
La boulie, absence de volonté.
Un dictionnaire vivant.
me paraît patente, c'est l'écologie. Alors certes, il a fait la... Je précise que je ne suis absolument pas d'accord avec les conclusions de la Convention citoyenne, donc je ne lui reprocherai pas de ne pas les avoir toutes reprises. Mais il me semble que la question essentielle en matière d'écologie, c'est nos choix énergétiques. Or, que fait-il ? Il ferme Fessenheim, tenant la promesse faite et non tenue par François Hollande, mais après... Rien.
Avec des ministres écolos pratiquement sur tout le quinquennat.
Tout le quinquennat, mais pas les mêmes.
Mais des militants.
Il a fallu compenser Fessenheim.
Il fait une politique démagogique de laisser faire et d'encouragement des éoliennes quand il faut faire un clin d'œil aux écolos. Les choix énergétiques de la France ne sont pas faits.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Christian ? On n'a pas entendu.
Je parlais par la fermeture de Fessenheim où on ne veut pas reconnaître, simplement parce qu'on répondait à une question question qui taraudait tout le monde. Fessenheim était devenu un symbole, était le symbole d'une écologie réfléchie. Ça y est, on va commencer à fermer les centrales nucléaires, avec un constat qui était un constat malheureusement épatant, que quand on ferme une centrale, on n'a plus de courant à la place, et il faut redébiter la même quantité, remettre dans le circuit la même quantité de courant. Et quand on n'a rien, on fait quoi ? On fait du thermique. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'ont fait les Allemands.
On achète du charbon à l'Allemagne.
Voilà. Et sur ce sujet de l'écologie, il y a eu même beaucoup...
Enfin, je voulais terminer parce que je suis content que vous ayez fait cette transition, parce que justement, je voulais poser également cette question. Il faut rappeler quand même que l'origine des gilets jaunes, c'est cette fichue transition énergétique.
Sur le prix du gasoil, notamment.
Donc personne n'a réalisé que le prix du gasoil toucherait les plus pauvres. Parce que les gens avaient leur voiture qui leur servait dans toutes les zones où il n'y a plus un bus, il n'y a plus un bistrot, il n'y a plus une mobylette, il n'y a plus une pompe à essence, où il n'y a plus rien, où ils ont besoin de leur véhicule.
Faites l'expérience, allez effectivement dans n'importe quel point de France hors Paris, tout le monde roule au diesel.
Et c'était une jacquerie.
Il n'y a pas une seule voiture.
Et à mon avis, c'est n'était pas ce qu'on devait attendre de décision à prendre sur l'écologie, j'aime pas trop le terme, mais la protection de notre planète. Je pense que l'écologie, c'est pas une politique. L'écologisme ne doit pas appartenir à un parti, mais devrait être pris par tous les partis.
C'est une thèse qui revient de plus en plus.
Sauf qu'à un moment, c'est aussi quand même une espèce de projet de société et de vision du monde. Et on voit bien que depuis le début de ce quinquennat...
L'éducation est une vision du monde aussi, il pourrait y avoir un parti éducatif.
Mais l'écologie et l'environnement sont indistingués de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'environnement est un sujet qui peut être traité par tous, l'écologie est une philosophie politique. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a une question de justice et sociale et d'acceptabilité pour les populations, ça c'est très clair. Mais après, il y a aussi un certain nombre de décisions à prendre qui peuvent, par exemple, parfois aller contre les intérêts de certains milieux économiques ou autres. Je prends un autre exemple sur le bilan écologique. On devait interdire le glyphosate au bout de 3 ans ou un certain nombre de pesticides qui mettent en danger la santé des gens. Sur tous ces aspects-là, on a reculé. Effectivement, sur les choix énergétiques, il n'y a rien eu de fait. Sur la Convention citoyenne pour le climat, qui donnait des propositions fortes pour rénover les logements, pour limiter les transports aériens, sur toutes ces questions qui sont effectivement des choix de société, c'est pour ça que moi j'entends ce que vous dites, mais à un moment, c'est quand même aussi des choix de société, eh bien, il faut avoir une vision...
Vous n'étonnez pas d'avoir les gilets jaunes dans la rue, écoutez, c'est sérieux.
Après, il y a des mesures, il y a à accompagner les populations, il y a à aider les gens.
Sur
l'aérien, il y a eu des progressions.
Des petites mesures de prise, mais c'est encore une fois très loin. Si on veut décarboner l'économie française pour 2050, et c'est ce qu'il faut faire si on veut réussir à limiter les gaz à effet de serre suffisamment pour empêcher
un changement climatique.
Non, mais du coup, ça suppose de prendre des décisions fortes dès maintenant, et aujourd'hui, les décisions qui sont prises. Donc moi, je pense quand même qu'effectivement, il y a aujourd'hui des mouvements politiques qui portent l'écologie comme un projet de société.
Parti pour le marketing
encore
politique,
une fois, je suis désolé, j'ai quitté Emmanuel Macron, je peux peut-être dire qu'il soutient, maintenant je suis député.
On a très bien compris que vous
soutenez. Moi, je participerai à la primaire écologie, je soutiendrai Éric Piolle parce que lui propose des vraies mesures fortes en matière écologique, tout en disant bien ce que vous dites sur les gilets jaunes. Qu'effectivement, il y a une acceptabilité sociale à prendre en compte et qu'une écologie qui se détournerait des catégories populaires serait vouée à l'échec.
Ah ben bien évidemment, puisque personne ne se rend compte que 40 euros à la fin du mois pour certaines personnes, c'est invivable. Je suis désolé de vous dire, ça c'est de la politique.
Est-ce que pour autant il faut renoncer à faire des changements? Et d'ailleurs, vous parlez
du prix du pétrole. Mais il n'y a pas eu de renoncement sur les sujets de l'écologie.
Mais les pesticides, par exemple.
Attendez, Aurélien Taché, vous avez eu la parole, laissez répondre Prisca.
Vous êtes en contradiction dans ce que vous dites. Vous dites qu'effectivement l'écologie, et je vais vous rejoindre, ne doit pas être imposée au détriment effectivement des Français qui pourraient subir ça de plein fouet dans leur pouvoir d'achat.
Les plus pauvres.
Et que ça ne doit pas fondamentalement changer la façon de se nourrir et de vivre en France. Mais quand vous parlez des pesticides, moi je suis complètement d'accord. Qui serait pas d'accord aujourd'hui pour dire il faut absolument évoluer sur le sujet? Tout le monde est d'accord. Mais on peut pas le faire de façon abrupte et radicale. Pensez aux agriculteurs, donc c'est bien pour la raison pour laquelle un calendrier a été mis en place.
Vous voulez pas le faire, donc effectivement, vous renoncez à
Vous êtes dans du marketing écologique. Éric Piolle, excusez-moi, Éric Piolle.
Votre réalisme Éric nous conduit toujours à l'inaction.
On a entendu parler d'Éric Piolle par son marketing, par ses buzz écologiques.
Au nom du principe de réalité, on ne peut rien faire. Donc arrêtez de dire que vous allez changer la vie des gens, et notamment en matière écologique.
Le plan hydrogène, c'est quoi? C'est 9 milliards.
Des plans,
ça va justement sur le...
Mais
non, mais
quand on est concret, quand il faut voter dans la loi, l'interdiction du glyphosate au bout de 3 ans, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et après, vous expliquez... Non, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, on n'a pas mis les moyens. Mais non, mais soyez de mauvaise foi si vous voulez, Prisca Thévenot, mais à un moment, assumez vos choix politiques. Soit on donne les moyens aux agriculteurs, effectivement, de pouvoir cultiver autrement qu'avec le glyphosate.
On les trouve, vous, les moyens?
Ah ben voilà, mais voilà une vraie question. Discutons de ça.
Je ne veux pas interrompre votre dialogue.
Tout ça, c'est quoi? C'est des formules creuses. Soit un moment,
non, mais vous
mettez...
vous avez peut-être une réponse là-dessus.
Mais j'ai une réponse, effectivement. Ah, il y a un moment, il va falloir trouver des recettes là où on peut en trouver. Ah, on a fait des séries d'amendements dans les différents projets de loi de finances.
Dites-nous, dites-nous, ça
commence bien. Laissez-moi parler.
Là, il ne peut même pas répondre.
Voilà, vous voyez. On a fait des séries d'amendements pour demander, effectivement, des contributions plus importantes aux multinationales, aux populations les plus aisées. Tous rejetés, évidemment, comme vous vous en doutez, par la majorité d'Emmanuel Macron.
Mais c'est faux.
Mais vous êtes pour la décroissance, alors?
Oui. Tout.
Si.
Ah
si.
Mais si.
Pas si.
Du tout.
Comme Éric Piolle.
Quand je vous dis que...
Je suis désolé.
Mais pas du tout.
Quand vous dites qu'il faut... Je suis pas politique, mais je sais comment ça fonctionne.
Quand vous dites qu'il faut redistribuer un petit peu les richesses pour taxer davantage, effectivement, les entreprises qui, aujourd'hui, qui polluent, tous les plans de relance qui ont été mis en place par Emmanuel Macron, on lui disait, par exemple, de mettre un peu de conditionnalité sur le plan écologique aux entreprises qui seront aidées. Quand vous aidez des multinationales, c'est peut-être normal de leur demander de prendre des engagements écologiques plutôt que de leur donner de l'argent public qui pourrait être utile aux agriculteurs pour faire autre chose que
vous
faisiez. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques.
Nous, la France, qui sommes le pays européen, nous, la France, qui sommes le pays européen qui taxe le plus et dont les impôts sont les plus lourds, on doit encore augmenter les prélèvements.
Mais sur ce sujet-là, pour le coup, les multinationales,
il y a une concurrence internationale.
On a l'impression de vous entendre, c'est vraiment le cliché du président Macron, le président des riches. Mais excusez-moi, sortez de ce truc-là et regardez. C'est pour ça que je vous dis, vous gagnerez vraiment à être sur du concret. Critiquer, c'est bien, mais critiquer sur la base de concret, c'est ce que je vous ai dit, par exemple, tout au début, c'est sur le sujet des multinationales. Quel est le pays qui a permis de faire évoluer la taxation des multinationales et des GAFA? Quel est le pays? C'est la France.
Mais...
Eh ben, ah ben voilà.
Mais
parce que c'est pas Éric Piolle qui l'a fait.
Mais pas du tout. C'est très bien. C'est simplement anecdotique par rapport à ce qu'il faudrait faire.
Il y a cinq minutes que c'était important et maintenant quand vous dites que c'est Bruno Le Maire qui l'a fait.
Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu d'autres propositions de fait nombreuses qui étaient beaucoup plus ambitieuses pour trouver des moyens qui permettraient d'enclencher la transition écologique sans pénaliser les catégories.
Vous les avez citées.
Et qu'elles ont été rejetées.
Vous les avez citées, Christian Proutot.
C'est un fait.
Si on va jusqu'au bout de la logique telle qu'elle a été présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire le tout électrique, on réalise même pas que ce que l'on a vécu à travers la crise sanitaire, c'est-à-dire la prédominance de la Chine en matière de produits pharmaceutiques, et qui nous a pénalisé au point qu'on vient d'ouvrir, je crois, un nouveau centre à Lyon pour refaire du paracétamol pour pas avoir cette dépendance, mais quid des batteries? Le plan batterie dont on nous rebat les oreilles, il va sortir
l'Europe
quand
des batteries.
L'Europe des batteries. Or, on sait très bien que pour le moment, que ce soit les panneaux solaires, ce soit les batteries...
Les panneaux solaires, c'est fichu.
C'est fichu, c'est la dépendance vis-à-vis de la Chine.
Mais alors, et donc, investir là-dedans, ce n'est pas la décroissance, vous voyez qu'on est d'accord.
Attendez,
il faut investir là-dedans, il faut faire le plan batterie.
Et alors donc...
Mais à quelle vitesse? Là, du jour au lendemain, tout de suite?
En tout cas, il faut y aller quand même un petit peu fortement, parce que sinon, on va avoir de vrais, vrais, vrais problèmes d'ici peu de temps. C'est pas moi qui le dis.
Vous avez les batteries, passer à autre chose, à l'hydrogène.
Vous avez vu les mégafeux, vous avez vu les inondations, vous avez vu tout ça comme moi. Vous savez, moi, je ne suis pas un écologiste à la base. Je viens plutôt de la gauche, de la question sociale, je m'inquiète plutôt du sort des catégories populaires, c'est ça le sens de mon engagement politique premier. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on voit effectivement que la planète est véritablement menacée et que c'est quand même ce qui reste à la plupart de ses habitants et à ceux qui ont le moins de choses que d'avoir un environnement un minimum sain autour d'eux, eh bien, il faut prendre des décisions
votre
politiques courageuses et importantes.
Oui. Voilà.
Mais on représente quoi sur la planète?
Mais c'est pour ça que sur ces deux sujets, moi je vais vous rejoindre effectivement.
La crise sanitaire
a montré qu'on avait une dépendance trop forte effectivement sur tout ce qui est nos 10, je crois que c'était les 10 ou les 11 premiers médicaments dont les Français se servent le plus. On n'arrivait pas à les produire, on les produisait plus en France. Donc effectivement, ça a permis de réinvestir massivement sur notre industrie pharmaceutique. Mais effectivement, il va falloir aussi travailler sur les innovations électriques. Et ça, il ne faudra pas le faire qu'au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe. C'est en train d'être mis en place.
Sauf que le quoi qu'il en coûte nous a laissé à l'os alors que les finances publiques étaient déjà assez dégradées. Même s'il fallait le faire, alors qu'Emmanuel Macron avait déjà renoncé, par exemple, à réduire le nombre de fonctionnaires, bien avant la crise. Donc, on est à l'os, et cet argent n'est pas de l'argent magique. Ça veut dire que sans réforme structurelle, évidemment, il y a les retraites, elles ont été officiellement reportées pour l'après-présidentielle, si c'est Emmanuel Macron qui gagne. Je pense pas qu'on les verra ressurgir d'ici là, mais sinon on attend en vain les autres réformes structurelles.
Vous avez raison, ce n'est pas de l'argent magique. Mais quand vous dites au début, et après je répondrai sur le fameux de l'argent magique, sur le sujet
après,
effectivement...
C'est pas grave.
Mais sur le sujet des fonctionnaires, effectivement, c'est la justice et la sécurité. On en a largement parlé dans le débat. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on vienne encore couper les vivres.
On vient encore...
Ben, les renseignements territoriaux, par exemple, ont été effectivement montés. Mais attendez,
c'est pas facile de ne parler que des soignants.
Il faut aussi regarder ce qui se passe. Ben, les soignants, la revalorisation,
non, mais
les
revalorisations... Pour vous les partager, vous voyez le verre à moitié vide et elle voit le verre à moitié plein. Donc, ce qui a été fait, vous dites ce qui n'a pas été fait. C'est ça le bilan. Non, mais c'est ça dans n'importe quel bilan de n'importe quel quinquennat. Donc, de toute façon, vous me tenez pas
d'accord. Mais sur le sujet de l'argent magique, de manière très simple.
Très rapidement.
Voilà, c'est une façon de voir les choses aussi. C'est soit il n'y avait pas le quoi qu'il en coûte et on laissait l'économie s'effondrer. Et du coup, on sait très bien que réinvestir...
On en a convenu de ça.
Voilà, ça aurait été compliqué.
J'ai dit oui.
Et donc là, effectivement, c'est le quoi qu'il en coûte et le plan de relance. Et on voit aujourd'hui que ça commence à payer avec cette croissance qui arrive à des niveaux qu'on avait d'avant crise. Et c'est ça qui va permettre aussi, quelque part, de revenir financer cette dette.
On termine sur l'optimisme de Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Aurélien Taché, là aussi, n'est pas d'accord. Député du Val-d'Oise, Christian Proutot.
C'est juste qu'on va changer de président, c'est tout.
Fondateur du GIGN et Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine. Dans un instant, on parle du Goncourt. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
À table chez nous dans le studio Lagardère d'Europe 1, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, la porte-parole à l'REM, Prisca Thévenot, fondateur du GIGN, Christian Proutot, et ma consoeur du Figaro Magazine, Judith Vintraub. 350 000, c'est à peu près ce que vend chaque année un prix Goncourt. Donc un livre qui s'est battu parmi 500 autres lors de la rentrée de septembre avec une guerre des textes, une guerre des écrivains, forcément une guerre des éditeurs. Le Goncourt, c'est cette assemblée d'écrivains qui désigne un roman chaque année. L'élu sera vendu, je le disais, à peu près 300-350 000 exemplaires. Les trois autres finalistes, pchit, disparus ou alors lus par quelques très grands passionnés comme Nicolas Carreau chez nous. Oui, mais pendant ce temps-là, la grande littérature a une concurrence farouche. Les romans hors Goncourt sont de plus en plus nombreux, de plus en plus vendus. Il y a les polars, il y a ce qu'on appelle communément et peut-être à tort parfois les romans de gare. Alors que vaut encore ce Goncourt? Que valent encore les prix littéraires? On en parle avec nos invités. Judith, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis?
Excusez-moi. Hervé Le Tellier, prix Goncourt de l'année dernière avec l'Anomalie, en était à plus d'un million de ventes en juillet.
Oui.
Je ne vois pas pourquoi vous opposez Amazon avec l'intérêt du Goncourt.
C'est-à-dire qu'on peut lire les deux?
Bah oui.
Voilà le juge de paix.
On peut lire le Goncourt sur Amazon.
Vous êtes tous d'accord là-dessus? Parce que sinon, on clôt le débat, on s'en va. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est de... je suis d'accord, on peut acheter son Goncourt où on veut. Alors, après, sur le Goncourt lui-même... Moi, j'avoue que ça m'a jamais beaucoup. Enfin, voilà, j'ai fait mes choix de livres en dehors des prix littéraires. Je pense quand même que pour d'autres Français.
Parce que moi, c'était pas intéressant. Parce que je me contredisais.
Non, mais en tout cas, c'est peut-être.
Non, vous me contredisez pas. Absolument pas. Vous dites juste que cette année-là, en l'occurrence, l'Anomalie, que j'ai d'ailleurs adoré, Hervé Le Tellier, a vendu plus que. Mais je veux dire, en moyenne, 300 000. C'est pas.
Parce que la pandémie, il fallait lire. Là.
Enfin, oui, c'est peut-être vrai aussi. Comme on n'a jamais eu autant de vocations.
C'était la pandémie, peut-être que les gens se sont plus penchés vers la lecture. Il y a... Ou peut-être parce qu'effectivement...
C'est ça l'anomalie, en fait.
Le livre était très bon, même si certaines comparaisons avec Matrix me paraissent pas tout à fait...
Oui, c'est facile.
Ouais.
Oui, mais après, soyons très clairs, le prix Goncourt, oui, il est aussi convoité parce que ça donne, quelque part, une présence médiatique importante. Mmh. Effectivement, quand on va chez son libraire, quel qu'il soit,
il est exposé,
il y a le petit bandeau qui va bien, ça attire l'œil, évidemment, c'est pas anodin dans les ventes et dans la connaissance de l'auteur, eux ou pas eux. Et du coup, moi, je voulais plutôt venir sur ça. C'est que le prix Goncourt, effectivement, c'est pas une fin en soi, parce que se pose aussi la question de ce qu'un auteur après existe après ce fameux prix Goncourt. Et donc, on en a vu quelques auteurs récompensés par le prix Goncourt qui disaient que finalement, ça avait été plus un mal-être qu'autre chose parce qu'ils se souvenaient du moment et puis de l'après, il n'y en avait pas vraiment. Et puis, le deuxième sujet, c'est que pendant longtemps, le prix Goncourt a été surtout un prix masculin. Il y a eu très peu de femmes. Alors, heureusement, c'est en train d'évoluer, et on l'a vu ces dernières années. Mais donc, je pense qu'il faut prendre tout ça avec de la mesure, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut noter, parce que bah, ça attire l'œil, quoi qu'il arrive, et que c'est important. Hein.
Après, c'est vrai que ça peut peut-être aussi parfois donner, et ça passe peut-être moins bien qu'avant, le sentiment d'une littérature un peu d'entre-soi, un peu élitiste, ces prix littéraires, etc. Et je ne sais pas si ça, c'est encore aussi bien. Je pense qu'avant, pour beaucoup de gens qui peut-être achetaient un livre dans l'année ou quoi, c'était, c'est quoi le prix Goncourt cette année, etc.
Ou on l'offrait.
Je pense que c'est de moins en moins vrai. Et effectivement, c'est une très bonne, c'est une des rares bonnes nouvelles de cette pandémie, que ça ait relancé la lecture. Il n'y a jamais eu autant de gens qui même voulaient devenir libraire qu'après cette pandémie, mais je suis pas sûr que les gens continuent d'avoir les mêmes habitudes de consommation sur le plan littéraire et que ces prix aient autant de poids qu'ils en avaient avant.
Ouais, et d'ailleurs, ça c'est les éditeurs qui le disent, 85% des lecteurs sont des lectrices.
Ah oui. J'allais citer le chiffre. Parce que moi c'est mon éditeur qui me l'avait expliqué, alors il me disait que ce que tu écris, t'as aucune chance.
Mais parce que c'était pas un roman, c'était...
Mais non, bien sûr, non, mais je voulais dire simplement...
Là je parle des romans, je parle pas des essais.
Non, mais j'ai tout à fait compris aussi la nuance, mais même pour les essais, c'est valable. Les femmes lisent de toute façon beaucoup plus que les hommes. Et les hommes, si ils survolent, ils prennent la jaquette, c'est une réalité de lecture. Alors bien sûr, par rapport à Musso, où effectivement ça atteint des chiffres colossaux, les livres, les documents et autres, également, ce sont les femmes qui lisent le plus. De l'ordre de 70%.
Ma question en fait initiale, et peut-être que je l'ai mal posée, hein, je veux bien le croire, c'est... c'est pas par rapport à vous. Dans les années 90, quand il y avait un prix Goncourt, et puis en plus on était du temps de Marguerite Duras, de François Nourricier, de...
Le record absolu de vente d'un Goncourt. Hein,
ben voilà. Donc évidemment, on était effectivement dans une période où n'existait pas Snapchat, Netflix, Amazon. On avait un choix restreint. On allait dans une librairie, on avait une libraire aussi qui vous conseillait, une libraire qui avait lu plusieurs livres de la rentrée littéraire. Ça existe encore fort heureusement aujourd'hui, mais il y a une dissémination, il y a une offre qui s'est multipliée. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que le Goncourt a autant de panache que avant.
Alors sur ça, pardon, je vais vous rejoindre sur
non,
ça.
Non, pas vous, parce que vous.
je vais vous rejoindre sur ça effectivement, parce que il y avait aussi le côté le livre, l'avoir, l'objet. Effectivement, on offrait beaucoup plus de livres avant qu'on peut le faire maintenant. Enfin, c'est l'impression que j'ai, parce qu'il y a plein d'autres sujets qui nous préoccupent, qui nous occupent, et j'ai même pas envie de dire que c'est du divertissement, mais plutôt qui nous prennent du temps. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de réinvestir sur ces sujets pour les générations qui arrivent. Pour les générations qui sont là, les plus jeunes, notamment avec les librairies de quartier. Et on les voit beaucoup à Paris, mais il y en a aussi beaucoup dans nos quartiers, hein, Aurélien Taché. Moi, j'étais dans une librairie, c'était avant les vacances, parce que j'ai pas pu cette
semaine. Vous allez vous réconcilier avec Aurélien Taché.
On n'est pas
autour des livres. C'est
mais
une belle
oui, mais c'est pour ça.
Que je terminais là-dessus.
On n'est pas systématiquement l'un contre l'autre. Cette libraire, une libraire à Pantin, qui a mis en place des instants lecture avec les enfants, etc., pour les réhabituer au plaisir du livre, au plaisir de venir, ne serait-ce que flâner dans la boutique, venir voir la librairie, venir voir ce qui... pas forcément pour racheter. Et donc ça, je pense que c'est aussi important d'avoir une nouvelle approche à l'objet livre.
Mais malheureusement, à Paris, moi je crois que le plus gros obstacle aux librairies, c'est pas du tout Amazon, c'est le prix de l'immobilier. Il y a quand même un
bien
énorme
sûr.
Problème, le nombre de librairies
qui sont transformées en magasins de fringues.
Exactement, la fringue envahit tout, et moi qui suis pourtant libérale, là je trouve qu'il faudrait quand
Christian
même Poutot. Encadrer
les choses. Je voudrais pas mettre un petit peu la discorde dans tout ça par rapport à ce que nous avons vécu qui était la pandémie, mais il faut quand même se souvenir qu'on considérait pas que c'était essentiel les librairies. Les libraires doivent être très contents de vous entendre par rapport aux décisions qui avaient été prises pendant un moment.
La profession n'était pas très allante. Hein. Moi, j'ai suivi ça de près.
Détestable.
J'ai suivi ça de près avec Bercy. Les syndicats de libraires, si on leur donnait l'argent, bon d'accord, on ferme.
Oui, après, je pense que là, c'était une erreur plutôt d'utilisation de nom, de nomination. Mais nomination administrative.
Ça ne remet pas en cause.
Oui, non, mais bien sûr que ce n'est pas un détail. Et on le dit aujourd'hui, on en parle justement sur le Goncourt, etc. Le livre est important, le libraire est important. Mais c'est une nomenclature administrative. et en aucun cas une façon de dire nos libraires sont pas du tout importants. C'est absolument pas ça.
Oui, mais ce sont eux qui sont battus, ils ont été les premiers à pouvoir réouvrir.
Quittons les libraires et revenons aux livres. Est-ce que vous avez lu des livres de la rentrée, justement?
Celui de Pierre Rosanvallon, moi, par exemple.
Et alors?
Eh ben, écoutez, il est très bien, j'invite vraiment tout le monde à regarder ça. Alors, c'est plutôt un essai. C'est l'idée que, effectivement, maintenant, la politique va beaucoup plus se construire à partir du ressenti et des émotions des Français que uniquement à partir d'intérêts, de classe ou autre. Mais c'est passionnant. Et effectivement, je pense que, à gauche, mais pas seulement, ça peut rebattre un peu des schémas de pensée qui étaient trop classiques.
Qu'est-ce que vous avez lu ?
Je commence précisément un livre qui a été retenu dans la sélection du Goncourt, qui s'appelle « S'il n'en reste qu'une », dont l'auteur est Patrice Franceschi, qui est un journaliste aventurier, et qui raconte les combats des femmes kurdes. Et ça a l'air formidable, mais je n'en suis qu'au début.
Vous avez été, comme on dit, prise par oui. la main, le lecteur a été pris par la main.
Mais je n'en suis qu'au début, mais d'abord le sujet m'intéresse et me passionne évidemment.
Vous avez lu des... pas encore ?
Pas immédiatement, non, oui effectivement je lis, mais plutôt des livres que j'avais en retard et qui datent de quelques rentrées et qui n'étaient pas du tout présélectionnés pour le Goncourt, comme quoi. Non, c'est La Tresse qui parle du destin mêlé de trois femmes qui ne se rencontreront jamais et pourtant qui sont fondamentalisées sur leur combat. Et leur vision de la société.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on accepte plus que... Je vais encore revenir dans les années 80 ou dans les années 90, qu'on accepte plus qu'on peut, de manière pas du tout antinomique, lire à la fois des livres qui concourent pour le prix Goncourt et ce qu'on appelle des romans de gare, à l'époque peut-être des SAS, et aujourd'hui, effectivement, tous les auteurs que vous avez cités tout à l'heure.
Ben, j'espère bien.
Oui, quand même. Quand même.
Moi, je suis une boulimique de lecture, donc je lis absolument tout.
Le prix Goncourt, aujourd'hui, quand il est affiché comme ça, avec tout le cérémonial, c'est-à-dire... et puis, il y a eu une valse, quand même, d'auteurs absolument mirobolants, qui se plongent dans la lecture. On se souvenait, d'ailleurs, on a fait des reportages sur Pivot, Chandernagor, etc., qui partaient avec au fin fond de la Toscane ou au fin fond du sud de la France, avec des piles de livres qui les lisaient, qui étaient comme un devoir, c'était leur devoir de vacances, de lire des livres. Et il y a ce cérémonial de Drouhan, ce restaurant mythique, Place Gaillon à Paris. C'est encore 21e siècle, c'est encore 4.0 tout ça, ou est-ce que c'est intégré dans le patrimoine français?
C'est-à-dire ringard?
Non, pas forcément.
Oh, le patrimoine n'est pas ringard. Non, mais quelque chose à chérir.
Moi, j'ai tendance à penser qu'en tout cas, malgré...
C'est patrimonial.
Non, oui, et puis malgré la place que prennent toutes ces plateformes que vous avez évoquées à plusieurs reprises, et effectivement, on voit bien que les gens consomment aussi des produits de divertissement ou artistiques beaucoup plus variés qu'avant, les séries, tout le reste. Le livre garde une place importante en France. Cette mobilisation au moment justement du deuxième confinement pour que les librairies restent ouvertes en est un exemple et que ça ne disparaîtra pas. Et c'est très bien comme ça.
Christian Poteau ?
Oui, je partage ce point de vue parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable. Bon, de temps en temps, mon éditeur me dit « on a vendu tant de livres numériques, ça me laisse froid ». Et je trouve que le plaisir de toucher un papier, c'est un plaisir ineffable dans la lecture.
Enfin, le plaisir de ne pas charger de 300 ou 400 grammes supplémentaires à sac à bac qui est déjà bien chargé.
Donc vous êtes pour la liseuse aussi.
pour les deux.
On a fait des progrès avec
Pour les deux, et ce qui est formidable, liseuse, c'est quand vous voyez un titre qui vous intéresse, vous pouvez tout de suite envoyer un extrait gratuitement. Ouais. Et alors, quand vous notez sur un papier, c'est fichu.
En tout cas, merci à vous quatre. Merci Aurélien Taché, Prisca Thévenot, Christian Proutot et Judith Vintraud. Bon, on se retrouve demain, bien sûr, pour les débats d'Europe Soir, puisqu'on parle de culture. Et ça, c'est un petit clin d'œil au Festival du cinéma américain à Deauville, qui vient de donner son grand prix à Down with the King. C'est un film du français de Diego Ongaro avec le rappeur américain Freddie Gibbs. Voilà, vous savez tout. Dans un instant, c'est Europe 1 Sport.